Radio Capi, grand témoin.
Bonjour et heureuse de vous retrouver en ce dimanche 16 juin 2013 pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Il s'agit de Dabu Mavinga Samuel. C'est l'un des témoins de l'indépendance du Congo. Papa Dabu Mavinga Samuel, c'est un plaisir de vous recevoir dans le studio des Radio Capi. Et donc avec vous, dans notre entretien, nous parlerons de votre personne. Vous êtes né avant l'indépendance. On va essayer de faire une comparaison avec vous de l'avant et après l'indépendance. Dans quelques jours, on va fêter le 53e anniversaire de l'indépendance de la RDC. On va essayer de faire une certaine comparaison entre les deux époques. Est-ce qu'il fallait obtenir cette indépendance en 1960 ou bien il fallait attendre un peu plus tard pour demander cette indépendance? Nous n'en sommes pas encore là. On va commencer d'abord par une petite biographie de votre personne. Vous êtes né un certain 29 septembre 1930.
Je suis né à cette date-là, dans un village appelé Kiobongoi, du secteur Madouda, territoire de Tchiela, dans le Mayombe.
Dans la province du Bas-Congo.
Du Bas-Congo, évidemment.
Et c'est là où vous avez grandi?
J'ai grandi au village. Je suis né dans une pépinière purement protestante. Puis j'ai fait mes études primaires protestantes.
Toujours dans ce village?
J'ai commencé 2 ans. Premier, deuxième dans le village. Troisième, quatrième, cinquième à Madouda, à la mission protestante. J'ai terminé à l'âge de 17 ans.
Vous avez commencé votre école primaire à l'âge de 12 ans.
Voilà, 12 ans, parce que dans cette époque-là, chez les protestants, pour être admis en première année primaire, il faut d'abord savoir au préalable lire et écrire. Et comment? Ben, on apprenait les alphabets
à la maison, il y avait des moniteurs.
Il y avait des moniteurs préparés pour ça.
Qui passaient dans chaque famille pour apprendre l'alphabet aux enfants?
Il y avait dans les écoles, dans les temples. On apprenait les alphabets, un plus un, et puis quand on sait que l'enfant peut lire ou écrire, allez, il est admis enfin en première année primaire.
Chez vous, c'était 5 ans.
5 ans.
5 ans d'école primaire.
D'école primaire.
Avant de commencer l'école.
Pour aller à l'école
des moniteurs.
Première condition, il faut être marié et pour y avoir réussi en primaire. Or, pour devenir marié, il faut être âgé d'au moins 20 ans. Et moi, j'ai terminé à 17 ans.
À 17 ans.
Alors,
il fallait attendre 3 ans, atteindre 20 ans.
Mais 3 ans.
Et être marié
pour aller à l'école de moniteur. Alors, pendant 3 ans, en attendant, je suis allé me vivre un peu chez ma grande sœur mariée à Boma, tout ça, pendant 3 ans. Et puis, en sillonnant les avenues, on trouve une affiche sur le mur de bureau de l'Agence maritime internationale qui cherche 8 pointeurs à engager après le test. Le test est là, moi je l'ai gagné.
Vous avez passé le test
et j'ai gagné. J'ai obtenu, je suis engagé à l'Agence maritime internationale en 1950.
Alors que vous étiez allé à Boma chez votre sœur, pour vous promener, pour les vacances.
Voilà, vacances. Attendre pour que je puisse grandir un peu.
Vous arrivez à Boma, vous trouvez un emploi.
Un emploi. Et puis je suis engagé comme pointeur. Et puis.
C'est-à-dire quoi un pointeur?
Pointeur, c'est-à-dire quand le bateau accoste au port de Boma, les marchandises qu'il amène d'Anvers, il faut des gens qui puissent noter, pointer et les marchandises à importer, à embarquer dans le bateau. Donc c'est ça le pointeur qui pointe, il y a des carnets de pointage.
C'était pas les blancs qui faisaient ce travail-là?
Le blanc était le chef. Les blancs qui nous engageaient et les blancs qui nous initiaient. Et puis, après, on entre, quand on s'applique, eh bien, on est devenu pointeur. Et moi, je suis retenu jusqu'en 1952. Pendant ces 2 ans-là, j'avais quand même une petite ambition. Je suis pointeur. Est-ce que je ne peux pas devenir clerc? Parce que quand on allait déposer les pointages au bureau, on voit les clercs.
Alors voilà, là vous parlez déjà de votre parcours professionnel, ce que vous avez fait comme travail. Mais on va faire un pas en arrière pour parler des conditions dans lesquelles vous avez grandi. Vous avez grandi dans quelles conditions?
J'ai grandi comme un enfant protestant.
C'est-à-dire
une culture, un enfant bien éduqué qui ne touche pas à n'importe quoi. Non, non, non. Les enfants, c'était sous les yeux des parents. Dans le village, et les parents, et les voisins mettaient les yeux sur les enfants.
Ça veut dire que vous étiez un enfant très docile,
vraiment.
Sage. Pas turbulent.
Pas turbulent. La turbulence est gérée sévèrement. Il faut être turbulent dans le bon sens, mais pas dans le mauvais.
Et au cas où vous êtes turbulent, je ne sais pas ce que vous entendez par mauvais sens. C'est quoi d'abord être turbulent dans le mauvais sens?
Bon, dans le mauvais sens, c'est compréhensible. Quand on est jeune, hein, à l'absence des parents, on peut aller essayer d'aller à gauche ou à droite. Mais même quand tu veux aller à gauche ou à droite, il y a un autre parent. Tu te vois qui va te dénoncer. Alors, il faut pas se jeter dans de mauvais jeux. Et dans le village, j'étais vraiment très sévère. Pas une sévérité sauvage, mais une sévérité dans le bon sens. Et en même temps, on vous dit, voilà, il est écrit ici, tu ne feras pas ça. Tu dois te comporter comme ça, comme ça, comme ça.
Et là, les enfants suivaient ça à la lettre.
Pas tous, évidemment. Les mauvais grains ne manquent pas. Il faut que les parents voient pour qu'ils puissent essayer de se mettre en ordre.
Et dans votre village, là, est-ce qu'il y avait, des blancs? Parce que c'était,
c'était
à l'époque coloniale, quoi.
À l'époque coloniale, les blancs étaient à 30 kilomètres. Mm-hmm. Étaient à 30 kilomètres, à mission. Là où les sièges des missionnaires étaient à 30 kilomètres.
Et pour les... il y avait une cité pour les blancs et une autre cité pour les noirs.
Oui, évidemment, évidemment. Quand on parle de la mission, c'était là où les missionnaires ont acquis un terrain, où ils ont construit des écoles, des résidences, des dispensaires, etc. pour les blancs, avec leurs domestiques. Et puis, aux côtés de la mission, il y a les écoles, il y a les maisons des moniteurs.
Et votre papa, il faisait quoi?
Mais mon papa était catéchiste au village, à 30 kilomètres de la mission.
Donc, votre papa était catéchiste, vous avez grandi...
Et maman aussi.
Votre mère aussi. Mm-hmm. Vous avez grandi dans des bonnes...
Dans de très bonnes conditions.
Oui, voilà.
Des conditions honnêtes.
Vous étudiez dans des écoles protestantes.
Protestantes.
Donc, c'était gratuit, l'enseignement était gratuit, puisque vous étiez protestant.
Gratuit.
Et là, qui de vous donner cours?
Des moniteurs formés à l'école...
Des moniteurs noirs.
Des noirs, formés à l'école de moniteurs, diplômés à l'école de moniteurs. On est formés dans les écoles de moniteurs pour devenir moniteur des écoles primaires.
Et quel est le souvenir qui vous a les plus marqué pendant que vous étiez en train de grandir? C'est vrai que vous gardez beaucoup des souvenirs de votre jeunesse, mais celui qui vous a le plus marqué?
Celui qui m'a le plus marqué, c'est ma mère. Ma mère était pour beaucoup dans ma droiture. Et elle était très intelligente, ma mère.
Vous étiez très proche de votre mère ou de
oui.
votre père? De votre mère.
De votre mère, beaucoup plus de ma mère.
Vous étiez fils aîné?
Moi, j'ai deux aînés, un frère et une sœur, et moi, je suis troisième, et après moi, il y a cinq enfants, trois filles et deux garçons. Donc, nous sommes au total huit.
Et vous avez combien d'enfants? Vous-même, vous avez combien d'enfants?
Oh, moi, j'ai sept enfants.
Sept enfants?
Sept enfants, plusieurs petits-enfants.
C'est normal que vous ayez plusieurs petits-enfants. Vous avez 83 ans aujourd'hui.
Voilà.
Mais vous paraissez fort, papa Samuel.
Bon, vous savez que...
C'est quoi votre secret?
Mon secret, c'est de n'avoir pas touché à n'importe quoi. Je n'ai jamais goûté de la bière, par exemple. Jamais.
C'est ça qui vous maintient en bonne santé?
Jusqu'aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Dans la vie, je n'aime pas la malhonnêteté. J'ai été clair comptable. Et pendant toute ma carrière, je travaille pendant 59 ans, Dieu seul connaît, si j'ai touché un franc de quelqu'un pour que je puisse rendre tel service, non. Non, 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 non. Je n'ai jamais fait ça.
Radio Capi, grand témoin.
Grand témoin, vous fait découvrir aujourd'hui Dabou Mavinga Samuel. C'est l'un des témoins de l'indépendance du Congo. Alors, papa Dabou Samuel Mavinga, on avait déjà commencé à parler de votre parcours professionnel. Vous avez commencé votre carrière professionnelle en 1952 dans une société maritime, une entreprise
dans l'agence,
maritime.
L'Agence Maritime Internationale.
L'Agence Maritime Internationale.
Oui.
Et là, vous avez travaillé pendant une année jusqu'en 1953.
Oui.
Et de 1953, vous avez changé d'entreprise.
J'allais au Sesomo, Sesomoyi, et puis dans la société Sokonga.
C'est Somoïs,
le secrétariat social de la main-d'œuvre indigène.
Pourquoi vous avez changé de boulot? Pourquoi vous avez quitté l'agence maritime?
Parce qu'agence maritime, j'étais pointeur. Et j'avais l'ambition de devenir clerc. Alors, comme j'ai gagné le test de devenir clerc, bien j'ai changé.
Alors, c'est pas tout le monde qui comprend ce que clerc signifie. Bon, clerc, comment vous pouvez expliquer
clerc
ça?
Clerc est un agent de bureau.
Ok.
Un agent de bureau pour moi travailler avec les blancs ensemble.
Uh-huh. Voilà. Mais on dit que les blancs, pour travailler avec les blancs à cette époque-là, en 1953, il fallait être un évolué. Vous n'étiez pas évolué à cette chose-là.
Attention, ça dépend. Évoluer surtout dans l'administration publique. Il va avoir un diplôme. L'école moyenne, école ceci, école cela. Mais c'est le privé, les diplômes ne comptaient pas. Et ce qui comptait pour eux, c'est l'intelligence. Alors, c'est pour cela que, parfois, ils faisaient fi des diplômes, ils établissaient un test, un examen, dans lequel on pose des questions de... dans la culture générale et tout ça, etc., pour voir que tel homme est capable de répondre à telle tâche. Parfois, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, mais comme moi, je n'ai pas de diplôme. Mais partout où j'ai passé, on n'a jamais demandé à moi, montrez-nous votre diplôme. Jamais.
Parce que vous vous défendez bien partout où vous
passez. Oui. Mon travail suffisait. Et ce sont des experts comptables qui m'ont formé, moi. Et quand je m'applique, j'avance. Et c'est pour cela qu'on me fait ces promesses. Je suis parti de Boma, on m'amène à Matadi, Lépaulville, Coquilatteville est 12 ans, j'étais à Coquilatteville, à Mbandaka, que l'indépendance m'a trouvé. Et même quand il y a un changement de gouvernement, quand les Noirs sont devenus... vous pouvez demander ce témoignage à l'honorable Ngulu Bangampong, qui a été le premier gouverneur de la province de l'Équateur. Je suis resté à l'Équateur 12 ans. On me maintenait toujours à mon travail, à mon poste. Quand je voulais quitter, je voulais partir pour retourner à l'époque, on me disait, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait ici?
Et à l'Équateur, vous étiez allé travailler, toujours dans le cadre du travail, que vous vous êtes retrouvé là-bas?
À l'Équateur, quand nous sommes venus sur la mutation par la société Sokoga, où il a gagné plusieurs chantiers, même l'aéroport international de Mbandaka, c'est cette société-là qu'il a construite. Moi, j'étais le clerc comptable. Cette société est tombée en faillite. Allez, l'administration, les travaux publics de la province de l'Équateur, a pris les mêmes travaux en régie avec nous, le personnel et les ingénieurs français qui étaient avec nous. On nous a maintenus à nos postes jusqu'à 1967. Moi, s'il vous plaît. Vous pouvez poser la question au ministre et à l'honorable sénateur Ngulu Bangampongo.
Et donc l'indépendance vous a trouvé à
Mbandaka. On nous a maintenus dans nos postes aux mêmes conditions. On nous faisait avancer même, nous sommes devenus dans nos bureaux des dirigeants de plusieurs clercs.
Vous aussi, vous attendiez cette indépendance-là, vous personnellement, Papa Mavinga?
Bon, on attendait, mais j'avais 30 ans, en 60.
Oui, vous aviez 30 ans.
30 ans. En 30 ans, bon, ce sont les Blancs qui se plaignaient au bureau. Je dis, mais est-ce que les Lumumba et les Kassavubu là, quel bonheur vont-ils apporter à vous les Congolais? Alors on faisait toute une campagne pour que nous puissions les haïr, pour que nous ne puissions pas tenir compte de leurs déclarations à l'intérieur du pays. Les Blancs ont tout fait pour nous scandaliser, pour que nous opposions à ces deux, surtout à ces deux-là.
À ces deux leaders congolais qui tenaient coûte que coûte le Congo et son indépendance.
Oui. Alors nous, on était un peu dans l'équilibre, mais ce que disent les Blancs, peut-être c'est vrai, mais non. Mais la chaleur chauffait ici à Kinshasa, à Lépaulville, surtout après la date du 4 janvier 1959. Oh là là. Et puis la chaleur a contaminé tout le monde. On s'est dit, mais non, finalement non. nous devons attendre notre indépendance. Nous devons acquérir notre indépendance. Ce n'est qu'après, mais au début, on doutait toujours.
Alors, l'indépendance arrive en 1960, 60. Et quelques années après, il y a eu des troubles dans le pays. Donc, le pays n'était
dans
pas stable.
Tout le pays, dans tout le pays, oui. Le 2 juillet.
Mais vous, est-ce que vous n'étiez pas, vous ne vous êtes pas dit pourquoi on a demandé si tôt cette indépendance alors que les Congolais n'étaient pas prêts?
Oui, mais les Congolais n'étaient pas prêts, mais les Congolais sont quand même des êtres humains. Hein, il y en a qui sont dans chaque opinion, il y a toujours les pour et les contre, depuis le commencement. Ceux qui sont les leaders. Les leaders politiques capables n'étaient pas nombreux. La majorité des Congolais, même qui acclamaient l'indépendance, non, n'étaient pas des leaders aguerris. C'est puis facile à corrompre. Hein, facile à corrompre d'un côté l'Amérique, de l'autre côté l'Union soviétique. Avec leur argent, avec leur politique, on était divisé quand même. Mm-hmm. On était divisé. Mais parce que Lumumba parlait trop. Le Congolais voulait un chef qui parle franc, vrai ou faux, mais qui lui parle. C'est ça qui a fait que c'était difficile. Et nous, on n'était pas des leaders politiques, nous étions fonctionnaires, mais on suivait.
Des pressés qui se passaient.
De près. Et puis, on faisait tout pour que le travail marche. Le travail dans l'administration marchait convenablement.
Ça, c'est avant l'indépendance ou après?
Non, même après. Même après.
L'indépendance. Mais c'est pas ça qu'on apprend. On dit qu'après l'indépendance, comme les Belges n'avaient pas préparé les Congolais à l'administration.
Mais nous avons occupé leur poste.
Oui, mais le travail se faisait mal.
Mal, maman. Mal, c'est trop dire. C'est trop dire. Un Congolais, un agent, avec le patron qui est chef direct parti, et puis c'est moi qui préparais son travail, lui ne faisait que signer. À la main, j'ai pris la signature. C'est le même travail.
Donc c'était
l'administration fonctionnait normalement.
C'était aussi votre rêve d'occuper un jour
voilà
ce poste
la
des
joie
blancs.
Je deviens chef. Je deviens chef parce que c'est moi qui signe. Le gouverneur a son administration en province et les services provinciaux étaient là parce que quand les Belges étaient là, un directeur provincial avait quand même un secrétariat. Et les secrétariats de chaque directeur de section provinciale, ce sont des commis bien cotés. Parce que les commis, à l'époque coloniale, les commis étaient cotés. À la fin de chaque année, on cotait les commis. Les très bons, l'élite, avec l'élite, succède aux blancs. Seulement, on n'avait pas l'habitude de gérer convenablement. Parce que on était devenu très libre, puis cette liberté n'était plus bien contrôlée. Bon, c'est ça qui a fait que. Mais le travail marchait dans les administrations. Le travail marchait. Les banques fonctionnaient normalement. Les banques, d'ailleurs, les banques jusqu'aux années 70 fonctionnaient normalement. L'armée fonctionnait. C'est grâce à ces deux structures que nous, on se sentait protégé, et puis on travaillait.
Alors, on va revenir sur l'indépendance. Juste après ces témoignages qu'on va écouter, il y a quelqu'un qui nous a parlé de vous, papa Dabo Mavinga, quelqu'un avec qui vous avez travaillé. Il a essayé un peu de nous parler de vous, de votre personne, de comment vous vivez avec les gens. On va l'écouter et puis on revient juste après dans ce studio pour la suite de notre entretien.
Je m'appelle Mathieu Bosunga, actuellement directeur général du Centre protestant d'édition et diffusion CEDI.
Monsieur Mathieu Bosunga, nous sommes dans ce studio avec Papa Mavinga, que vous connaissez très bien, j'imagine. Dites-nous comment vous l'avez connu.
Donc, je l'ai connu en 1971, quand j'ai travaillé et j'ai commencé mon travail au secrétariat général, qu'on appelle maintenant Présidence nationale de l'Église du Christ au Congo. Et c'est là où, comme j'ai travaillé à l'enseignement, au bureau de l'enseignement protestant, lui-même, Papa Mavinga, travaillait comme comptable et chef du personnel de la Présidence nationale de l'Église du Christ au Congo.
Et c'est comme ça que vous avez fait connaissance?
Oui, c'est comme ça que nous sommes connus. Moi, travaillant au bureau de l'enseignement protestant, et lui, travaillant à la comptabilité de l'Église.
Alors, donc, vous avez travaillé ensemble. Il était quel genre de personne avec ses collègues?
Il était un homme affable, c'est-à-dire aimable, un grand travailleur qui ne venait jamais en retard, qui ne s'absentait jamais et qui allait toujours après tout le monde, qui rentrait, qui fermait le travail, qui terminait le travail après tout le monde. Voilà le type d'homme que j'ai connu à Mavinga.
Et donc depuis 1971 que que vous l'avez connu, jusqu'à présent, vous entretenez les mêmes relations ou bien vous êtes devenu plus lié qu'en 1971?
Bon, on est toujours lié. Hein. Quand il y a des problèmes, on se rencontre. Comme il est retraité maintenant, moi j'ai travaillé et chacun a ses occupations, mais quand il y a des problèmes à l'église, en famille, on se rencontre.
À l'église à l'ECC?
Oui, à l'église qui est au Congo, oui.
Voilà. C'est vrai que vous avez parlé de ses qualités, un homme affable, mais si je vous demandais...
Travailleur aussi.
Oui, hein. Travailleur, oui. Si je vous demandais de nous parler de son mauvais côté, c'est vrai que la question est un peu difficile à répondre pour vous, mais qu'est-ce que vous lui reprochiez souvent?
Bon, chacun de nous a des faiblesses, mais... Moi, je n'ai pas vu chez lui beaucoup de faiblesses. Hein. Je n'exagère rien. Je sais qu'il était sévère vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres aussi. Donc, il était un homme correct. Et il est toujours correct.
Sévère dans quel sens?
C'est-à-dire, ce qu'il exigeait de lui-même. Par exemple, la ponctualité, il est au travail. Je n'ai jamais vu aller en congé.
Ah bon?
Oui, jamais. Jamais. Maintenant, on dit qu'il est retraité. Jamais en congé. Et tout comme moi, d'ailleurs. Donc, toujours à temps au travail. Et là, il était aussi sévère vis-à-vis des autres, dans ce sens-là.
Donc, il tenait
et là,
beaucoup...
tout le monde n'aime pas ça, hein, vous savez. On n'aime pas ça.
Il tenait beaucoup à la ponctualité au travail.
Oui. Et il n'y avait pas d'ordinateur, ça je vais vous dire. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs. Et c'était un ordinateur qui connaissait toutes les fiches comptables. Toutes les fiches bancaires de chaque service et de chaque personne. Il suffisait de citer un cas, il prend dans son tiroir, il tire la fiche qui vous concerne. Donc, c'était un ordinateur vivant.
Ah, vous parlez de Papa Mavinga comme étant un ordinateur vivant?
Oui.
Ah, d'accord, parce que j'allais m'étonner, en 71, je ne pense pas qu'on utilisait déjà les ordinateurs.
Non. C'est ce que j'ai dit, qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'ordinateur, mais il avait toutes ses fiches comptables par cœur. Mm-hmm. Il les connaissait par cœur.
Il connaissait tout le monde.
Je suppose, hein. Moi, il me connaissait en tout cas. Moi, je les connaissais aussi.
Alors voilà, Papa Bosunga, c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. Vous avez un message particulier à adresser, à dire à Papa Mavinga qui vous suit en ce moment?
Bon, je lui souhaite une bonne année, une bonne vie. Et j'ai un bon souvenir, et j'ai dit ça à tout le monde, à mes enfants. Quand j'ai perdu ma sœur, Papa Mavinga est venu dans mon bureau me remettre un peu d'argent et j'ai dû pleurer en signe de reconnaissance. C'est quelque chose qui m'a touché et que je n'oublierai jamais. Et peut-être il a oublié lui-même. Il est venu dans mon bureau me remettre un peu d'argent. Je ne m'attendais pas. Et je ne vais pas dire le montant, mais je n'oublierai pas ça. Et mes enfants le savent.
Et donc ce geste-là vous a touché toute votre vie?
Oui. Parce que moi, ça, mais c'est le dernier que je garde. Il a été toujours serviable à mon égard.
Papa Bosunga, on vous demande de dédier une chanson à Papa Mavinga.
Quelle sorte de chanson?
Malheureusement, à Radio Kati, on ne passe pas les chansons religieuses.
Bon, moi, sur les autres, je connais pas aussi beaucoup de chansons. J'étais un mauvais chanteur.
Ça pourrait être une chanson de, je sais pas moi, de l'indépendance, ou, parce que bientôt, là, on va fêter l'indépendance, le 53e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Par exemple.
Ça tombe mal, ma fille, je suis un mauvais chanteur.
Mais vous connaissez quand même les titres de quelques chansons?
Non.
D'accord. D'accord, c'est pas grave. Merci beaucoup, oui. Papa Bosunga, et bon dimanche chez vous.
Merci, pareillement.
Alors, je vous vois toute émue là. Vous avez laissé couler même les larmes, Papa Mabinga. Ça vous fait quoi, ce témoignage?
Oh. Oh non, non. Je ne m'y attendais pas, hein. Je ne m'y attendais pas. C'est très aimable, très ému aussi.
Alors, on va vous trouver des papiers mouchoirs pour essuyer vos larmes, parce que vous allez me faire pleurer aussi dans ce studio si vous continuez comme ça. Alors, il dit que vous êtes une personne très aimable, vous aimez le travail.
Bon, oui. Il a dit ce qu'il sait de moi.
Très sévère aussi vis-à-vis de vous-même et des autres.
Vraiment. Ce qu'il a dit... des vérités. Je ne m'y attendais pas. Comment je connais? Je lui connais, moi. D'ailleurs, nous étions là à l'ECC. Notre chef de ce moment-là, il avait... il avait nommé... pas nommé, mais qualifié 3 personnes là-bas chez nous qui l'appelaient apôtre. Parmi ces 3 personnes, l'évêque président a nommé 3 personnes appelées, 3 personnes comme apôtres. Apôtres avec P minuscule, évidemment. Pas apôtres des 12, les 12 apôtres, je l'ai dit. Mais lui était parmi les 3 appelé apôtre à la présidence de l'Église du Christ au Congo. 3 laïcs que le président avait appelé apôtre. C'est dit, ceci vous dit tout, hein. Vous sont apôtres.
Alors, il dit que vous avez travaillé, quand il vous a connu, vous étiez un travailleur au point de ne même pas prendre des congés.
Mais, il dit la vérité. Il y avait une cause secrète, qu'on ne peut pas dire à la radio comme ça, qui nous imposait de rester en poste, parce que la trésorerie de l'Église de Christ au Congo n'enfermait pas seulement les petites offrandes et tout ça, mais des fonds, des milliers de d'autres marques, de dollars, tout ça. Des étrangers. Pourquoi? C'était difficile de prendre un congé à cause de ça. Parce que les Aïrois, vous savez, vous laissez un espace de temps, 5 minutes après, c'est trop tard. Une tranche qui est déjà vide. Alors, il fallait veiller. Et ces étrangers n'habitaient pas à Kinshasa. Ils sont en Amérique, en Allemagne, en Suisse et tout ça. Il fallait veiller. Pour mieux veiller à cela, il fallait ne pas prendre de congé. Il fallait travailler.
Alors, on va faire une petite pause pour vous permettre de reprendre vos esprits, Papa Mabinga. Vous êtes tout ému. Alors, héritier, tu nous balances quelque chose, le temps que M. Mabinga puisse se remettre de ses émotions.
Indépendance, Nadelboy, table ronde, Malopé, c'est...
Ça va, on peut continuer?
Oui, on peut continuer.
Grand Témoin vous fait découvrir Dabo Mavinga Samuel, un des témoins de l'indépendance du Congo. Il est né en 1930, aujourd'hui il a 83 ans, Papa Mavinga. Alors on va revenir sur l'indépendance du Congo. Cette année, on va fêter le 53e anniversaire de la RDC, de l'indépendance du Congo. Mmh. Alors, entre avant l'indépendance et après l'indépendance, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé?
Évidemment, évidemment. Beaucoup a changé.
Comme quoi, par exemple? À part le fait que les Blancs ne dirigent plus les Congo, ils sont plus aux affaires. La vie des Congolais a changé.
Les Blancs étaient aux affaires pour leurs intérêts. Pour les intérêts. Ils faisaient semblant de nous choyer, je ne sais pas, par leur façon. Le fait de nous avoir privé la formation intellectuelle, que nous soyons intellectuels comme eux, que nous soyons techniciens comme eux en Belgique, le fait de nous avoir privé ça, mais on ne peut pas expliquer ça. Ce n'est pas propre, ce n'est pas catholique. Parce qu'on dit que catholique c'est la honnêteté et tout ça. Les Belges n'ont jamais été honnêtes avec nous. Moi personnellement, je n'ai pas connu les méfaits en moi-même, les méfaits de la colonisation. J'étais toujours bien soigné. J'étais bien aimé, bien admiré dans mon travail, du début à la fin.
Par l'homme blanc.
Par l'homme blanc. Mais l'homme blanc qui me fait promener Boma, puis Matadi, puis Matadi, l'épaule-ville, et puis l'épaule-ville, Équateur. Donc c'est qu'il t'aime, qu'il t'admire.
Alors il vous faisait confiance.
Confiance totale. Confiance totale. En personne, moi-même personnellement, je n'ai pas connu les méfaits du colonialisme dans ma vie. J'étais toujours normalement payé dans les barèmes de ce temps-là. J'étais toujours bien payé, bien soigné. Mais ce n'était pas le cas pour les autres. Et comme nous n'avions pas d'autorité, nous n'avons pas de dire, d'autorité de dire à Blanc, pourquoi ne faites-vous pas ceci à celui-là, non? Mais moi-même, j'étais très, très, très bien soigné, très bien gardé, jusqu'à la décolonisation.
Oui, mais aujourd'hui, 53 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire, quel bilan on peut dresser de cette indépendance du Congo?
Je me réserve le droit de dresser le bilan, je ne suis pas un homme politique.
Non, il n'y a pas que les hommes politiques qui dressent le bilan, Papa Mavinga. En tant que citoyen congolais, vous avez vécu l'indépendance, vous êtes né avant l'indépendance, vous avez vu ce qui s'est passé après l'indépendance.
Ce que je vois après l'indépendance, le fait que les hommes... Les hommes qui dirigent notre Congo, la façon de recruter les gens, la façon de faire des fautes pour qu'ils ne soient pas accusés, celui-là, l'impunité. L'impunité, nous la vivons cruellement. L'impunité. Non, et évidemment, les Belges nous punissaient excessivement aussi. Il y avait des fautes qu'on ne devrait pas punir. Et nous, on punit celui qui est mal aimé. Je vous cite un petit exemple. J'étais à Mbandaka. Il y a un blanc dans le secrétariat de la direction où je travaillais aux travaux publics. Un blanc pour envoyer des choses au service de budget, pour que le service de budget puisse dire, bon, ça c'est bien, ça c'est mauvais. Mais celui qui contrôlait les dépenses, un blanc, un jour il a corrigé même ce qu'a signé son chef. Son chef n'était pas content de ça. Il devait retourner les dossiers avec les annotations. Ce blanc qui est inférieur, subalterne au chef. Et puis, on devait refaire la chose, ça a passé 2 jours. Nous, on croyait que, et c'était le jour de cotation, on se disait, mais ce blanc-là, c'est à marcoté. Le jour où les cotations sont sorties, ce blanc-là était coté comme élite.
Et donc, il était bien coté.
Élite. Mais c'est un Congolais. Tu corriges son chiffre et puis... te donne quoi? Parfois suspension. Ou mutation. Ce plan était coté élite. Par son chef. Et ceci était répandu dans tous les bureaux. C'est nous, non? C'est ça que je me plains.
C'est ça que vous déplorez un peu.
Je déplore, pas un peu,
beaucoup. Vous déplorez.
Je déplore totalement. L'injustice. L'injustice. Celui qui a commis un crime, vous faites tout pour le laver. On défend. On engage 10 avocats pour qu'il soit lavé. Ça se fait chez nous ici.
Voilà, Papa Mavinga, nous sommes à la fin de notre émission. Alors, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à tous ces Congolais qui nous suivent partout en RDC et même à l'étranger?
Tous les Congolais, moi j'aime tout le monde. J'ai exprimé un jour ma joie à des gens qui ne m'aimaient pas. Devant le monde, je dis, je vous aime. Parce que ce n'est pas... J'ai toujours dit que l'homme, la personne mauvaise et la personne bonne, il n'y a que Dieu qui le connaît. Nous sommes incapables de reconnaître le bon ou le mauvais. Parce que l'homme que je dis, le bon, il est le pire, parfois, intérieurement. J'ai toujours réglé mes questions, mais j'ai une manie de parler à quelqu'un ce que je sais de lui, même s'il ne sera pas content. Quand on se rencontre, je le lui dis. Et puis c'est fini. Ça sort de mon cœur.
Voilà, merci beaucoup papa Dabou Mavinga. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission.
Merci Radio Okapi qui m'a fait cet honneur, ce bonheur. C'est un bonheur pour moi d'être appelé, venir parler aux Congolais comme ça. J'aime que ce soit comme les bons grains, mais pas comme les mauvais.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais papa Dabou Mavinga Samuel, un des témoins de l'indépendance du Congo, âgé de 83 ans aujourd'hui et à la retraite. Merci à Héritier Sidiakala et Dieudonné Nyangasa qui étaient à la technique. Au micro, Kéline Kouté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.